Mes chers amis, nous avons déjà parlé de saint Pierre, Julien et Marc l'année dernière. Mais cet apôtre est tellement intéressant que nous avons pensé vous raconter d'autres choses le concernant. Donc, au cours de la canonisation de saint Pierre, Julien et Marc le 9 décembre 1962, le pape Jean XXIII déclara sa note caractéristique, l'idée directrice de toutes ses activités sacerdotales, on peut le dire, ce fut l'Eucharistie, le culte et l'apostolat eucharistique. Pierre Julien Aymar fut en effet et durant toute sa vie un prêtre totalement consacré à l'Eucharistie. Saint Pierre Julien Aymar naquit le 4 février 1811 à la Mure d'Isère. L'enfance et la jeunesse de Pierre Julien furent relativement tristes. Il était le 10e enfant de Julien Aymar, son père, et 4e de sa mère, 2e femme de Julien devenu veuf. Un destin cruel semble avoir marqué la famille Aymar. Successivement moururent ses frères et sœurs aînés, Cécile en 1805, François-Julien en 1807, Joseph-Julien en 1809. Du premier lit, 4 enfants sur 6 étaient également nord. De ce qui aurait pu être une grande famille, Pierre Julien, notre futur saint, ne connut qu'Antoine et Marianne, respectivement âgés de 17 et de 12 ans à sa naissance, en 1811. On croit savoir que la mère de Julien était très pieuse. Quant à son père, Julien Aymar, coutelier de son état, il fut reçu dans la confrérie des pénitents du Saint-Sacrement, le 8 décembre 1817. La piété de Pierre Julien fut précoce. Un fait est dûment attesté. Vers l'âge de 5 ans, le petit garçon fit une fugue. On le chercha partout. On le retrouva dans l'église, grimpé sur un escabeau placé derrière l'autel. « Que fais-tu là ? » demande sa sœur impatiente. « Je suis près de Jésus et je l'écoute, » répondit naïvement le petit garçon. « Et je l'entends mieux d'ici. » À mesure qu'il grandissait, Pierre Julien était de plus en plus attiré par l'Eucharistie. Très jeune, il désira devenir prêtre. Mais son père, meurtri par tant de deuils subis, refusa. Il ne pouvait pas accepter de perdre encore le dernier garçon qui lui restait et qui aurait dû prendre la succession de son entreprise. Pierre Julien connut donc des difficultés énormes pour faire ses études. Il apprit seul le latin en cachette de son père. Le 5 août 1828, sa mère mourait. Le père restait seul avec sa fille Marianne et Pierre Julien. Pierre Julien se devait d'aider son père. Enfin, la foi du papa l'emporta et Pierre Julien fut reçu chez les Oblats de Marseille le 7 juin 1829. Pour rattraper son retard scolaire, Pierre Julien travailla dur. Il tomba rapidement malade, mais se remit lentement. Après la mort de son père, il entra au grand séminaire. Il fut ordonné prêtre le 20 juillet 1834 et nommé vicaire à La Châte dans l'Isère. Le 10 juin 1835, il était reçu tertiaire de l'ordre des Capucins. C'est à La Châte qu'il fut gratifié d'une grâce mystique exceptionnelle qu'il garda longtemps secrète, mais qui nourrit toute sa vie spirituelle. Bientôt, Pierre Julien se mit à cracher le sang. Il dut quitter La Châte. On le nomma curé de Monténard, où il resta 2 ans. Fin 1839, il entrait chez les frères maristes de Lyon et fut nommé directeur du collège de Belley. En janvier 1845, on lui confia la charge de provincial dans sa congrégation, charge qu'il exerça pendant 2 ans avant de devenir visiteur général. En décembre 1845, le père Aymar prit la direction du tiers-ordre de Marie, au sein duquel il fonda de nombreuses branches. Les grâces spirituelles vont alors se multiplier. Les grâces reçues par le père Aymar sont toutes liées à l'Eucharistie. De celle de la fête Dieu à Lyon, le 25 mai 1845, il écrit « Je sens dans moi un grand attrait vers notre Seigneur. Jamais je ne l'avais éprouvé si fort. Cet attrait m'inspire dans mes prédications, conseils de piété, de porter tout le monde à la connaissance et à l'amour de notre Seigneur, de ne prêcher que Jésus-Christ et Jésus-Christ eucharistique. L'amour de Dieu en Pierre Julien est premier, mais il se concentre sur la contemplation du mystère de Jésus dans son Eucharistie. En juin 1848, à Paris, le père Aymar fut vivement frappé par l'intensité du culte eucharistique qui se déployait à Paris grâce à l'adoration nocturne des hommes et à la création par Adeline Duboucher d'un tiers-ordre qui deviendra l'adoration réparatrice. Dès lors, de plus en plus ému à la vue du délaissement de tant de prêtres séculiers et par le manque de direction spirituelle des hommes, le père Aymar envisagea la création d'un corps d'hommes comparable à l'adoration réparatrice en cours de création pour les femmes. Une nouvelle grâce à Fourvière, le 21 janvier 1851, lui permettra d'avancer davantage. Le décret du 13 mars 1848 avait supprimé les congrégations religieuses en France et de très nombreux religieux vivaient dispersés. Pierre Julien découvrit le remède contre cette indifférence universelle qui s'empare d'une manière effrayante de tant de catholiques. Il n'en trouva qu'un, l'Eucharistie, l'amour à Jésus eucharistique. La perte de la foi vient de la perte de l'amour. Ce fut l'origine de la fondation de la Congrégation du Très-Saint-Sacrement qui fut approuvée le 10 juin 1863 par le pape Pie IX. Le but de cette congrégation était double. Rendre un culte solennel et perpétuel d'adoration à notre Seigneur Jésus-Christ, demeurant perpétuellement au très saint sacrement de l'autel pour l'amour de l'homme, puis se dévouer à l'amour et à la gloire de ce très auguste sacrement par l'apostolat de chacun de ses membres qui, sous les auspices et la conduite de l'Immaculée Vierge Marie, doivent s'y appliquer dans la mesure de leur grâce et de leur vertu. La fondation de la Congrégation du Très-Saint-Sacrement fut accompagnée pour Pierre-Julien Aymar de très grandes épreuves. Tout d'abord, le fait d'être relevé des vœux qui l'attachaient à l'ordre des frères maristes en avril 1856, puis l'extrême dénuement matériel qu'il dut vivre et les vocations qui se firent longtemps attendre jusqu'à ce qu'enfin, le 6 janvier 1857, l'adoration du Saint-Sacrement exposé fut inaugurée. Mais toutes ces épreuves n'empêchèrent pas le père Aymar de mettre en place, dès 1858, d'abord l'œuvre de première communion des adultes, puis de fonder une communauté féminine, les servantes du Saint-Sacrement, entièrement centrée sur l'Eucharistie, tout en étant au service des pauvres. Mais pourquoi toute cette activité? Le père Aymar décrit la situation des jeunes ouvriers parisiens de cette époque. À peine capables de travailler, les enfants pauvres de Paris sont placés dans les fabriques pour y gagner quelques sous, d'abord 10, puis 1 franc. Et cela aide un peu à avoir du pain pour la pauvre famille, à payer les 40 sous de loyer par semaine. S'il n'y a pas de place dans les fabriques de boutons, de papier, etc., l'enfant, avec sa petite hotte, part le matin ou le soir, chiffonné dans la ville. Que de centaines d'enfants en sont là dans Paris. Si du moins la vie religieuse compensait la misère de la vie du corps. Mais hélas, elle est encore plus déplorable. Le petit ouvrier ne va pas à l'église apprendre à connaître, à aimer et à servir Dieu. Ses parents ne lui en parlent pas. Ils ont été élevés ainsi. Ou bien l'indigence les rend honteux et les abrutit. Non, rien ne ressemble à ce Paris de la misère et de l'indifférence. Nous avons vu que la vocation première de saint Pierre Julien Aymar est essentiellement eucharistique. Aussi, en plus de ses activités liées au développement de ses communautés religieuses, le père Aymar prêchait-il beaucoup. Il voulait faire connaître l'Eucharistie. L'amour qui est à la base de l'Eucharistie, c'est-à-dire le cœur de Jésus, le cœur eucharistique. Pierre Julien n'hésitait pas à dire, au cours des retraites eucharistiques qu'il prêchait, « Quand on veut donner un mouvement plus puissant, on double, on triple, on centuple la puissance du moteur. Le moteur divin, c'est l'amour, l'amour eucharistique. » Nous sommes en 1868. Les forces du père Aymar commencent à décliner. Il sent la mort approcher. À l'une de ses dirigées, il écrit le 26 avril 1868 « Plus les années se multiplient, plus elles affaiblissent la nature. C'est la mort par degrés, il faut s'y résigner. » Mais heureusement que le cœur ne vieillit pas. Il rajeunit au contraire en héritant de ce que les autres facultés perdent. Aimez bien notre Seigneur. C'était comme son testament. Il mourra le 1er août suivant, à l'âge de 57 ans, après d'ultimes épreuves, tant physiques que morales. Il fut béatifié par Pie XI le 12 juillet 1925, puis canonisé par Jean XXIII le 9 décembre 1962. Pierre-Jules Houyen eut une vie débordante d'activité. Ce fut cependant un grand mystique. En effet, dès l'âge de 26 ans, alors qu'il n'était encore que vitaire à la chatte, il fut, au cours d'une méditation devenue extase, favorisé d'une grâce mystique qui lui fit pénétrer la réalité de l'amour et de la bonté du Père. Pendant longtemps, il en parla avec reconnaissance. Cette grâce fut le point de départ d'un apostolat dominé par une pensée dominante, devenir l'apôtre infatigable de l'amour de Dieu et travailler à la glorification du sacrement de l'amour du Fils, l'Eucharistie. Nous avons vu que Pierre-Julien Aymar fut un grand mystique. Comme tous les mystiques, il connut de très grandes épreuves spirituelles dont il a peu parlé. Il connut aussi de lourds combats avec Satan. Le frère Ténière, qui le soigna avant sa mort, a rapporté quelques témoignages. En voici un. 3 semaines avant sa mort, le père m'a dit avec l'accent de quelqu'un qui a besoin de se soulager d'un mauvais coup reçu. « Oh, que le diable est mauvais quand il vous bat. Ses soufflets sont secs, comme s'il frappait sur du marbre. Ah, c'est qu'il frappe vraiment, et non pas seulement d'une manière imaginaire. » Pierre Aymar connut aussi les terribles épreuves de la nuit de l'esprit. C'est encore le père Ténière qui témoigne lors du procès ordinaire de Paris. Il entra dans une voie d'oraison douloureuse, sécheresse du cœur, impuissance de l'esprit à raisonner sur les vérités ou même à se représenter les mystères, obscurité de la foi, insensibilité absolue, vains efforts pour formuler une prière dans son cœur, vains appels à Dieu qui semblaient lourds à ses cris et s'éloignaient à mesure qu'il le cherchait davantage. Vue très claire de l'inutilité de ses efforts dans la prière, comme de toutes ses actions dont il ne voyait que des lacunes, les défauts et les fautes, et par suite tentations de découragement et de désespoir, qui le poussaient à abandonner au moins la prière comme inutile ou même injurieuse à Dieu. Telle fut la voix du serviteur de Dieu durant ces dernières années. C'était donc plusieurs heures par jour qu'il devait affronter ce combat de la prière, mais qu'il n'abandonna jamais, ni par la fatigue, ni par dégoût, et surmonta aussi cette longue et rude épreuve. Mais aller à la prière équivalait pour lui à aller au sacrifice pour immoler son âme sur le plus cruel des bûchers. Maintenant, voici quelques citations. Car la vie avec Jésus eucharistique doit être contemplation et don du cœur. Notre Seigneur, dit-il, m'a fait comprendre qu'il préfère le don de mon cœur à tous les dons extérieurs que je pourrais lui faire, quand même je lui donnerais les cœurs de tous les hommes sans lui donner le mien. Sur sa vocation eucharistique, il s'émerveille. Comme le bon Dieu m'a aimé. Il m'a conduit par la main jusqu'à la société du Très-Saint-Sacrement. Toutes mes grâces ont été des grâces de préparation, tous mes états un noviciat. Toujours le Saint-Sacrement a dominé. C'est la très sainte Vierge qui m'a conduit à notre Seigneur, à la communion de tous les dimanches, par le Los, à 12 ans, de la Société de Marie à celle du Très-Saint-Sacrement. À la messe d'action de grâce d'une retraite en 1865, Pierre-Julien Aymar écrit « De même, je dois être anéanti à tout désir, à tout propre intérêt et n'avoir plus que ceux de Jésus-Christ qui est en moi, afin d'y vivre pour son Père. » Et c'est pour être ainsi en moi qu'il se donne dans la Sainte Communion. C'est comme si le Sauveur disait, En m'envoyant par l'incarnation, le Père m'a coupé toute racine de recherche de moi-même, en ne me donnant pas la personne humaine, mais en m'unissant à une personne divine afin de me faire vivre pour lui. Ainsi, par la communion, tu vivras pour moi, car je serai vivant en toi. Je remplirai ton âme de mes désirs et de ma vie, qui consumera et anéantira en toi tout ce qui est propre. Tellement que ce sera moi qui vivrai et désirerai tout en moi au lieu de toi. Et ainsi, tu seras le corps de mon cœur, ton âme les facultés actives de mon âme, ton cœur le réceptacle, le mouvement de mon cœur. Je serai la personne de ta personnalité et ta personnalité sera la vie de la mienne en moi. Le Père Aymar dut dès lors faire un vœu qui le livre définitivement au Christ Jésus dans une configuration au mystère de son incarnation à l'exemple de Marie. « Oh, que je voudrais adorer notre Seigneur comme l'adorait cette bonne mère. Je vais faire toutes mes adorations en union avec cette mère des adorateurs, cette règle du Cénacle. » Et, pensant à sa congrégation, ne serait-il pas nécessaire dans la société d'avoir les contemplatifs et les apôtres, d'avoir des adorateurs et des incendiaires, puisque notre Seigneur veut voir ce feu eucharistique incendier le monde? Voici encore quelques-unes de ses réflexions. Le mal du temps, c'est qu'on ne va pas à Jésus-Christ comme à son Sauveur et à son Dieu. L'amour divin, qui n'a pas de vie, son centre, dans le sacrement de l'Eucharistie, n'est point dans les vraies conditions de sa puissance. Il s'éteindra bientôt. Que faire donc? Remonter à la source, à Jésus, et surtout à Jésus dans l'Eucharistie. Ce texte très éclairant se passe de commentaires.